Les prophètes. Peut-être quelques données historiques. Vous vous rappelez donc que Moïse a conduit les fils d'Israël jusqu'au seuil d'Israël. Josué a fait rentrer le peuple en terre promise. Nous sommes environ en 1200 avant Jésus-Christ. Pendant 200 ans, il y a ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que Israël n'est pas unifié, il y a 12 tribus et qui est gouverné par des gens qu'on appelle les juges. Hein, les juges, ce ne sont pas des juges juridiques, ce sont un peu les responsables de chaque tribu. Mais finalement, durant ces 200 ans, ça se passe bien, mais il y a besoin d'une unité nationale. Et il est vrai que on cherche des rois. Et finalement, il va y avoir des rois. Vous savez qu'il y a eu des rois. Alors, il y en a eu trois. Hein, il faut vraiment qu'on le retienne. Hein. Vous le savez sans doute, il y a eu trois rois, donc autour de 2000 environ. Donc, le premier roi, c'est Saül. Ensuite, il y a eu David. Et ensuite, il y a eu Salomon. Voilà, pendant environ 200 ans, 150 ans. Voilà. Mais Salomon a été un roi très sage, comme vous savez. Il y a eu la construction du temple. Mais en même temps aussi, dans ce monde-là, Salomon, je ne sais pas si, comme vous le savez, il y a eu de mémoire 700 femmes, 300 concubines. Ça a été un peu compliqué dans le royaume, et puis il y a eu des importations un peu d'autres dieux, et le peuple, l'unité s'est un petit peu désintégrée jusqu'au choc, si vous voulez, qui fait que le royaume a été divisé en deux, le royaume du sud, de Juda, et le royaume du nord, qu'on appelle le royaume du nord ou le royaume d'Israël. Et c'est à cette époque-là, donc là on est environ en 900 avant Jésus-Christ, que Élie apparaît. Voilà. Élie doit naître environ en 930 avant Jésus-Christ. C'est la période du roi Akab dont nous reparlerons. Je vais tout de même dire un tout petit mot quand même, parce que c'est important, sur les rois. C'était des rois, il y avait un sens politique, mais il y avait aussi un sens religieux. Hein, c'est important de savoir. C'est pas comme aujourd'hui, il y avait beaucoup moins de séparation. Donc, si vous voulez, le roi était celui qui gardait les observances du Seigneur sur son pays, que le peuple marche sur les chemins du Seigneur, garde ses lois et ses commandements. La charge royale consiste donc à gouverner le peuple avec sagesse et justice. Avec toute cette idée-là. D'accord ? Voilà. Donc là, on est au 9e siècle, au temps du roi Akab, chapitre 16. Là, on termine donc le chapitre 16. Du premier livre des rois. Voilà. Ce qui est un peu étonnant chez Élie, c'est qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup. Hein. On en parle seulement principalement dans le livre des rois. Hein. Donc, premier livre des rois, chapitre 17, 18, 19, chapitre 21. Voilà. Et puis au deuxième livre des rois, chapitre 1 et 2. C'est pas beaucoup. C'est un prophète non écrivain, hein, vous l'avez remarqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de livre d'Élie. Hein, il y a des choses écrites sur Élie, mais il n'y a pas de livre d'Élie comme le livre d'Osée, le livre d'Isaïe, etc. D'ailleurs, c'est vrai que pour réfléchir à un prophète, on a tendance à dire que c'est plutôt celui qui... Le prophète, c'est celui qui proclame, plutôt celui qui parle. Il n'écrit pas. Le plus grand des prophètes, c'est évidemment le Christ qui est Dieu, mais qui est le sommet de la parole de Dieu. Ben, le Christ, évidemment, n'a rien écrit. On écrit sur lui, un petit peu comme on écrit sur Élie. Élie est quand même un prophète très important, c'est le plus important. Chez les Juifs, c'est le plus important. Il a sa place à Shabbat, une place, un siège vide. On l'attend parce qu'il est parti, mais bon, comme vous savez, il n'est pas mort sur un char de feu. Donc on attend aussi son retour, et il est aussi le précurseur d'un Messie que tout le monde attend. Il est important aussi parce que c'est plutôt le premier des prophètes. Ensuite, c'est compliqué, juste un petit mot sur le prophétisme. On ne sait pas trop comment ça commence, cette histoire-là. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Il y a plusieurs définitions. Le peuple d'Israël était construit sur une base de prêtres, de prophètes et de rois. Si les prêtres et les prophètes, les prêtres et les rois, c'était assez structuré, les prêtres et les rois, pardon, au niveau de la prophétie, on était un peu proclamés, autoproclamés, donc c'était un petit peu spécial, hein, c'était un petit peu original. Mais quelque part, évidemment, Moïse, Abraham sont des prophètes, ce sont des hommes saisis par le Seigneur, ce sont des hommes de prière, et donc voilà. Mais on dit que Élie est le premier des prophètes parce que c'est le début de cette période du prophétisme. Donc voilà. Alors, historiquement, le roi Achab a épousé la reine Jézabel, vous connaissez peut-être l'histoire, qui est la fille du roi de Sidon. Ceci traduisait évidemment une alliance entre le royaume du Nord et le roi de Phénicie. La Phénicie, c'est le Liban actuel, c'est en comparaison. Le roi Achab a ouvri largement son royaume aux coutumes, aux prêtres et prières de Phénicie, notamment à Baal, le dieu de la fertilité, de la pluie, de la foudre et du vent. Pour sa femme, Achab construit même un temple de Baal dans la capitale de Samarie. Et évidemment, pour les fidèles du Seigneur, c'était une honte, car tout fils d'Israël vivait de l'alliance avec l'unique Dieu, qui est un, et donc exclusif de toute autre alliance. Vous savez, la particularité de la révélation au peuple élu, c'est le début du monothéisme, c'est vraiment qu'il n'y a vraiment qu'un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. C'est le fait d'avoir un cœur aussi sans partage. On va un peu réfléchir là-dessus tout à l'heure. Est-ce que dans notre vie, notre cœur est sans partage? Est-ce qu'il est vraiment, il est totalement acquis, totalement donné au Seigneur? Et après, tous nos sujets de famille, d'argent, d'affectivité, ben le Seigneur va les bénir. Alors, Élie est surnommé le Tishbite parce qu'il était originaire de Tishbé en Galade, donc à l'est de la Jordanie actuelle. On le représente habillé d'un vêtement de poil et d'un pagne autour des reins. Ça vous rappelle peut-être quelqu'un dans le Nouveau Testament ? Je pense évidemment à Jean-Baptiste. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Alors, je vous propose de balayer rapidement un petit résumé un peu de tout ce qu'on dit sur Élie pour quand même l'avoir en tête dans le livre de Rois avec les points un peu forts. En fait, dès le début du chapitre 17, en fait, Élie apparaît dans l'histoire pour avertir le roi Achab de la survenue d'une sécheresse causée parce qu'en fait son infidélité ça serait dû finalement à son infidélité. Alors soit c'est à cause de son infidélité, ça dépend d'un peu comment. Il y a beaucoup de commentateurs qui disent aussi que Élie aussi il veut montrer que son Dieu, que le Dieu unique, que Yahvé est le Dieu qui maîtrise les éléments, qui maîtrise la pluie, il est plus fort que le Dieu Baal qui était le Dieu de la fertilité, le Dieu de la pluie, le Dieu de l'orage. Il va y avoir cette confrontation. Hein, on va le voir dans quelques secondes au Mont Carmel. Mais voilà, il avertit juste donc, le roi Achab et il lui dit, voilà, il va y avoir de la sécheresse. La sécheresse arrive. Et la sécheresse, attention, j'attire votre attention, c'est important, c'est très pénible. Hein, on est plutôt dans des pays où on cultive. S'il y a de la sécheresse, eh ben, il y a de la famine, il y a de la maladie, il y a de la mort. C'est très très grave. Cette sécheresse a été... les historiens, on a pu repérer qu'il y a eu beaucoup qu'elle a été très 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 grave, très forte. Et donc ensuite, il annonce cette sécheresse, et puis tout de suite après, c'est assez amusant aussi chez les prophètes, si vous lisez le chapitre 18, vous l'avez peut-être déjà lu, c'est Dieu qui dit à... C'est vrai que c'est facile hein, pour les prophètes, Dieu dit à Élie, va là, va s'arrêter, vas-y, etc. Et donc c'est vrai que c'est assez incroyable, cette proximité, cette intimité avec le prophète, c'est un peu une caractéristique. Telle intimité dans la prière, dans la relation, c'est une grâce, un don de Dieu qui fait qu'il suit le Seigneur. Et la vie d'Élie commence par des retraites, en fait. Il fait des retraites et il vit de la providence au bord du Jourdain. Et ensuite, Dieu l'envoie. Et puis, au bout d'un certain temps, il vit la providence en termes de nourriture. Les corbeaux lui apportent de la viande, lui apportent de l'eau. Il s'endort, il se réveille, les petites cruches. Enfin, bon, c'est beau, quoi. Et ensuite, il est envoyé donc à Sarepta, c'est au sud du Liban, c'est texte que nous allons voir tout à l'heure. Et puis à un moment, le Seigneur lui dit, reviens voir le roi Acab. Et puis là, on voit un peu la force et puis son côté un petit peu défi. Voilà. Et Élie va rencontrer le roi Acab et il va avoir le fameux défi du mont Carmel. Hein. Donc je vous fais un petit résumé. Donc il le défie. Le roi convoque le peuple et tous les prophètes, le roi Acab, sur le mont Carmel. Élie est seul face à 450 prophètes de Baal et tout le pays. Chaque camp choisit des taureaux pour en faire offrande à son Dieu, mais sans y mettre le feu. Et le but, c'est d'invoquer son Dieu et de savoir qui est le Dieu le plus puissant. Les prêtres de Baal s'agitent, mais en vain. Le feu ne vient pas consumer leur offrande. Élie fait un autel et place les offrandes qu'il fait arroser d'eau par trois fois. Il fait alors une prière et le feu s'abat sur l'autel. Alors Élie donne l'ordre de se saisir des prêtres de Baal et il les égorge. Élie dit à Acab de retourner en char à Jisréel avant que la pluie ne l'arrête. La pluie se met à tomber tandis qu'Élie devance Acab en courant. Informé par Acab, Jézabel menace Élie de lui faire subir le même sort qu'il a fait subir aux prêtres de Baal. Donc voilà, Élie a gagné, c'est son Dieu, il est tout seul devant tout le peuple. Et le Dieu, l'unique Dieu, le Dieu d'Israël, a répondu. Mais voilà, Jézabel veut le tuer, et donc il s'en va à nouveau. Donc il y a eu d'abord 3 ans de retraite, 7 événements, et il s'en va à nouveau. Donc voilà, c'est un peu le système de l'homme de Dieu, hein, qui contemplation et action, contemplation et prédication. Cette double respiration. Je vais rapidement peut-être sur la fin d'Élie. Vous savez qu'il est en compagnie d'Élisée. Il est enlevé dans le ciel, dans un tourbillon, après sa disparition. Et Élisée lui succède. Ce récit de l'enlèvement d'Élie au ciel a inspiré la construction de certains scénarios eschatologiques sur son retour miraculeux sur terre. D'après le livre de Malachie, Élie reviendra avant le jugement dernier. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour du Seigneur arrive. Donc voilà, la tradition juive attend donc le retour d'Élie. Il reste l'invité lors de la fête juive de la Pâque où une porte ouverte et un siège inoccupé l'attendent toujours. Ce côté un peu mystérieux d'Élie, voilà, ça montre un peu et désigne un peu sa grandeur, sa hauteur, ses vertus. Je voulais vous dire un petit mot aussi sur Élie et la grotte, la fameuse grotte du Mont Carmel. La tradition dit que donc Élie a résidé plutôt en ermite avec ses disciples, tout d'abord avec Élisée. Et c'est au XVIIe siècle donc que des carmes viennent s'établir sur les pentes du Mont Carmel. Alors il a la grotte, aujourd'hui c'est une synagogue, et à côté, vous êtes peut-être déjà allé en Israël, il a ce Carmel, et les sœurs ont eu l'autorisation de célébrer certaines fêtes religieuses dans la grotte. Donc Élie, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, a été choisi pour être le père spirituel du Carmel. C'est le père spirituel, c'est comme ça que les appellent les frères et les sœurs carmes. Petit mot peut-être dans le Nouveau Testament, vous rappelez hein, sa présence importante, c'est le prophète le plus cité dans le Nouveau Testament, autour de Jean-Baptiste, mais aussi autour de la transfiguration. Hein, autour de la transfiguration, c'est bien Moïse et Élie qui sont là. Désignant, encore une fois, la loi et les prophètes. Peut-être pour terminer un peu, je voudrais réfléchir avec vous sur le prophète. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète pour nous? Je l'ai écrit un peu sur le papier que vous allez recevoir. Comme vous savez, on est baptisé, on est prêtre, prophète et roi. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on se dise, voilà, moi je suis baptisé, qu'est-ce que ça veut dire, moi je suis prophète, voilà, j'ai... 60 ans, 80 ans, 20 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai un petit peu réfléchi et je voulais vous donner quelques pistes. Voilà, je ne sais pas si elles sont justes, mais j'avais envie de vous dire que pour être prophète, il me semble que quand on regarde les prophètes, ce sont avant tout des hommes de prière. Donc voilà, est-ce que dans votre vie, dans ma vie, où j'en suis de ma prière, c'est peut-être le moment de faire un petit point. Voilà. Le Seigneur nous invite à prier sans cesse, à prier tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Voilà. Ensuite, le prophète, c'est un homme de la parole. Donc voilà, moi aujourd'hui, comment je parle de Jésus à mon mari, à ma femme, à mes amis, dans mes cercles associatifs, est-ce que j'en parle ou pas? Voilà, où j'en suis de l'audace, pourquoi j'en parle pas? Est-ce que j'ai peur? Voilà, un peu comme les apôtres hein, qui avaient peur, qui n'étaient pas éduqués, comme vous le savez, malgré leurs 3 ans avec le Christ, au début des actes, on voit bien qu'ils ne sont pas. Les prêtres juifs me disent, mais c'est qui ces gens-là qui ne sont pas éduqués, qui ne connaissent pas bien la. Voilà. Le prophète est un peu à contre-courant, c'est pas agréable. Souvent, nous, on n'est pas prophète, on a du mal à développer cette prophétie parce qu'en fait, on a peur de déranger. Le prophète, il dérange, il est un peu à contre-courant et on se dit, bah, zut, alors, mon cousin, mon ami, il ne va peut-être pas m'aimer parce que je lui dis que ce serait peut-être bien que tu regardes un peu où tu mets tes forces vives dans ta vie. Où tu mets tes forces vives. C'est vraiment ce qui m'a le plus touché, hein, en fait, en préparant ce petit topo. C'est voilà, en fait. Peut-être ce matin, se dire, mais où on met nos forces vives? Est-ce que nos forces vives, on les met dans le Seigneur? Ou est-ce que je les mets, je ne sais pas, dans mes sécurités, dans ma maison, dans mes idoles? Quelles sont mes idoles aujourd'hui? Peut-être regarder ça, réfléchir là-dessus. Est-ce que je perds? Voilà, comment j'affecte mon temps? Voilà, où je mets mes forces vives. Écoutez, j'en ai terminé pour le moment, et je pense donner déjà des petites pistes de réflexion. Donc, je vous propose qu'on se mette en petit groupe sous la direction de Olivier, qui a beaucoup plus d'habitude que moi.
Merci Cédric. Alors maintenant, je pense que